Je voulais revenir sur le premier exposé parce que je crois que nous sommes un peu dans la situation de Hayek quand il inventait son nom Bellerin. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'on arrive à ne pas avoir des petits mouvements éparpillés, mais à constituer, donc j'entendais très bien ce raisonnement. Il faut le jouer Aikido, parce que alors que Hayek pouvait proposer au moment des crises des solutions aux puissants, qui servaient d'une certaine manière, hein, nous, ce n'est pas les puissants que nous soutiendrons. Donc c'est encore beaucoup plus difficile. Nous, malgré ça, il existe des initiatives parce que même le bloc dominant commence à se fissurer, à avoir des doutes. En particulier, en matière de recherche, en gestion, il y a une initiative internationale qui s'appelle Responsible Research in Management and Business, first, and Management, second. Et cette initiative, elle est soutenue par les accréditeurs, par ACSB et par Equis. Je pense qu'il faut supporter cette initiative, dont pour l'instant je suis très provisoirement l'ambassadrice pour la France. Il faut la soutenir et la faire aller vers où nous souhaitons. En tout cas, le but de l'initiative, c'est quand même de desserrer l'étau dans lequel se trouve la recherche aujourd'hui. Donc si vous voulez bien, je vous passerai le lien, mais je pense que c'est susceptible de fédérer à un niveau international des gens de différentes sensibilités. Hein. C'est ce que vous vouliez faire et qui n'est pas si facile à réaliser. Ça me paraît un compromis, cette initiative, mais un compromis à saisir pour avancer et justement créer des nouvelles revues, enfin se faire soutenir par des réseaux puissants dans ce domaine. C'était tout.
Oui, Olivier Weinstein, Université Paris 13. Non, c'est la dernière intervention qui me fait réagir. Je comprends parfaitement, hein, c'est en particulier c'est intéressant de partir d'Hayek et tout ce mouvement. Mais alors, ce qui me paraît important, moi j'ai vu ça un peu, il y a des choses là-dessus, sur la corporate gouvernance et le shareholder model, sur comment tout le processus dans lequel vraiment ça s'est imposé pour être dominant. Bon, ça part du monde académique. Ça va pénétrer dans tout le monde de la presse. Ça va pénétrer dans le monde et plus que pénétrer, construire des entreprises de consulting. Hein, Fama, par exemple, crée son entreprise de consulting. Donc c'est tout un écosystème d'influence qui se construit avec toute une série de relais qui va directement dans le monde économique. Et c'est comme ça, progressivement, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris quand même beaucoup de temps, hein. je vois pour la corporate gouvernance.
Avant la dernière guerre, ça a commencé.
Oui, ça commence avant la première guerre. Moi, je vois sur la corporate gouvernance, ça a mis du temps pour s'imposer dans les entreprises, hein, la vision actionnariale. Hein. Hein, quand on voit en particulier même les grands... la grande association des grandes firmes américaines... Le Business Roundtable, oui. Pour que, clairement, il adhère à ça, ça a pris, je crois que c'est dans les années 90, hein, pas avant. Hein. Voilà. Alors, c'est pour dire que faire la même chose, c'est un programme extraordinairement ambitieux. Voilà, hein. Et en particulier, ça ne peut pas rester, si ça reste au niveau, je dirais, académique, hein, ce qui n'est déjà pas facile, vu ce qu'est la structuration du monde académique actuel, disons, la capacité d'influence restera faible. Alors, c'est pas très optimiste, hein, mais bon.
Juste pour dire un mot sur le fait que ça a mis du temps pour passer dans les entreprises. Antoine Rigoud nous disait, avec son accent inimitable, les acquisitions de BSN n'ont pas coûté un sou. Il voulait dire, il ne sortait pas de la trésorerie, lui, il émettait les actions, il payait. Ah. En fait, il avait fait ça. BSN étant coûté, il achetait une entreprise familiale en donnant des actions, mais du coup il avait un effet de distribution, et là c'était effectivement à l'inverse total de l'approche erroneuse. Vous me donnez votre nom,
je crois. Donc, je suis alors, je suis totalement en adéquation avec ce qui a été dit, hein, donc pas loin d'aller contre ce qui va être dit. La force de la théorie dominante de l'école de Chicago, c'est sa cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque chose de très réduit, on arrive à pouvoir convaincre, un peu comme le registre de la religion ou de la foi. D'accord ? Donc en fait, on impose quelque chose. Et en fait, le problème que l'on a dès qu'on ouvre cette boîte de Pandore, c'est qu'au fond, comme vous l'avez mentionné au début, on a ouvert cette boîte, mais au fond, on n'arrive absolument pas à réunifier quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit la complexité de la finance, en fait, on a une honnêteté intellectuelle qui va être aussi de reconnaître que on aura du mal à résoudre ça. Chose que n'ont pas l'autre bord. Puisque l'autre bord, on a une forme d'affirmation vis-à-vis d'un dogme, et donc il y a une puissance dogmatique beaucoup plus forte vis-à-vis d'une analyse qui est plus sceptique et qui n'est pas, et je ne pense pas qu'elle sera à même de le faire, de proposer quelque chose de simple pour remplacer cet état d'art. Et donc effectivement, je pense qu'on... Alors je me rappelle, hein, je m'appuie sur quelque chose qui est assez... le débat entre Fama et Schiller qui dure pendant très 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 longtemps, quoi. Il y a un article que j'adore de Fama, qui est assez surprenant, fin des années 90, où il écrit « Ok, globalement, la thèse de l'efficience n'est pas bonne. Ok, vous m'avez convaincu, je crois que c'est un Fama 96. Mais, so what? Que me propose la finance comportementale ? » Pour prendre le registre de l'efficience. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord que l'efficience, ça ne marche pas. J'ai pas lu un ouvrage de Nicolas Boulot, j'en ai lu des plus anciens. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si Christian Walter, il aurait pu en parler plus, qu'est-ce qu'on fait avec une loi Lévi-Stahl ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une variance infinie, concrètement ? Et donc, en fait, je trouve que cette...
Il y a
du boulot, mais je pense aussi qu'on y arrivera. Enfin,
pas comme ça.
Voilà. Ou admettre, ou faire autrement, mais voilà. Mais c'est dur de lutter contre un mot.
Juste une anecdote qu'à Merton, on lui avait montré que c'est son truc qui ne tenait pas la route. Il a dit... C'est peut-être fou, mais c'est beau. Mais authentique, hein.
Et je pense qu'on a là.
Et on lui a répliqué qu'il aurait dû quand même écouter son père, qui lui était le fondateur des théories automédiatrices. Ils sont tellement importants.
Une matrice stratégique,
etc. Ça marche. Laurent Cialom, Université Paris-Nanterre, donc dans la prolongation de ce que dit Yanina, donc effectivement, je pense que la grande force du courant de l'efficience, ça a été d'être au départ une théorie qui est devenue une doctrine et ensuite un dogme, et qui s'est ossifié en fait, parce que ça a irrigué à peu près, passe bien au-delà du monde académique, hein, et surtout ça propose quelque chose de simple, une réappropriation politique très simple, sous forme de recettes excessivement simples. Et pour avoir côtoyé d'assez près le politique, puisque je coordonne le pôle finance à Terra Nova, j'allais dire Finance Watch, à Terra Nova, et avoir donc fait quelques notes, et puis et essayer de faire comprendre après les politiques. Enfin, si vous proposez pas un truc très très simple, quoi. Ça n'accroche pas, quoi. Et surtout, il y a une capture par la complexité qu'utilise la finance, mais en réalité, la finance est vraiment complexe, quoi. Donc c'est très très compliqué, en fait, le relais politique, en fait, de mesures qui tiennent compte de l'intégralité. Voilà. Alors, pourtant, il y a des choses qui auraient pu être très simples. Par exemple, la loi de séparation bancaire, c'est très simple d'expliquer en réalité à des politiques pourquoi c'est important de faire une telle loi. Eh bien, malgré tout, ce qu'a fait l'industrie pour répliquer à ça, c'est l'enfumage par la complexité. C'est-à-dire en instrumentalisant le jargonnage, en disant c'est des recettes d'un autre temps, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment... Enfin, ce que dit Yanina est très vrai, pas seulement pour infuser d'un point de vue académique, mais pour le relais politique à la prévention de cette complexité.
Je pense que...
pense, c'est que. Je suis un Golden Boy repenti. J'avais réfléchi à la question sous l'angle de l'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'innovation dans le monde financier ? C'est rechercher à tout prix des moyens d'étendre ce que vous avez appelé l'univers d'arbitrage, et c'est le moyen d'augmenter les capacités de marge des acteurs financiers, notamment par ce que j'appelle le gap de compétences, c'est-à-dire que quand vous vendez un produit très compliqué à un client, il ne peut pas le pricer, et donc vous augmentez votre marge. Alors, ça a été le cas pour les produits structurés, les fonds garantis, les subprimes, etc. Et si on creuse cette idée, me semble-t-il, en rebondissant sur ce que vous disiez, c'est qu'en fait, dans toute cette théorie de l'efficience et tout ça, c'est comme si les marchés existaient indépendamment des acteurs qui en sont les maîtres. Et toute la mystification, c'est là. C'est qu'en fait, la complexité, tout ça, ça revient à analyser qui sont les acteurs qui sont au centre, pourquoi agissent-ils. Moi, j'ai donc des cheveux un peu gris. J'ai commencé avant d'être Golden Boy, j'étais dans une banque de crédit du secteur semi-public en France dans les années 70. Tout ça n'existait pas. Il n'y avait pas de problème de complicité de marché. Il y avait des banques d'affaires, des banques de dépôt, des banques spécialisées, et le système fonctionnait parfaitement.
Oui, brièvement, sur cette question de la complexité, elle n'est pas naturelle dans la physique. Elle est complètement artificielle pour deux raisons principales. Le profit et le pouvoir. Effectivement, la complexité accroît la marge pratique et le pouvoir, parce que seules quelques institutions sont susceptibles de comprendre cette complexité et d'utiliser les formes qui vont amener le pouvoir politique, revenir des droits de banque, etc. C'est superficiel. Pas naturel.
Je vais peut-être me permettre. Oui, quand même. Je suis un petit peu mal à l'aise sur un point, quand même. Il y a différents niveaux dans la discussion. Il y a ce qui concerne la recherche. On peut tirer un bruit rouge sur la recherche académique. Quand je suis à la retraite, je vais arriver à toi, on va aller relire quelques de tenir un jour sur des papiers publiés dans les vendredis. Il y a quand même un boulot énorme. Je pense simplement quelques données qui sortent d'une base facile d'accès. Je suis admiratif de mon travail qui est fait. Alors, j'aimerais pas être jeune chercheur aujourd'hui par rapport aux jeunes chercheurs que j'étais il y a 30 ans. C'était quand même beaucoup plus facile, techniquement, en termes d'exigence, de recours et de travail. Je pense quand même qu'il faut faire très attention sur ce point. Et les questions sont aussi extrêmement diverses et peuvent toucher aussi à des questions d'environnement et d'autres. Donc je pense qu'il ne faut pas globaliser la recherche. Ensuite, la recherche aujourd'hui, elle est quand même. C'est le contour de montée. Il n'y a que quelques-uns qui arrivent à l'attention et donc les salaires très élevés des grandes universités américaines. Le reste après, c'est un peu de bouillonnement créé par les agences d'accréditation qui fait qu'il n'y a pas la moindre institution qui ne doit pas avoir un certain nombre de chercheurs en quelque sorte. Et ça, c'est là une perversion, mais qui ne tient pas nécessairement à la recherche académique elle-même, mais plutôt à son utilisation. Sur lequel je serais personnellement extrêmement compliqué. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'a beaucoup plu dans l'intervention de Thomas, c'est les trois niveaux, au fond. Et l'enseignement. Ça me semble beaucoup plus important que la recherche. Et l'enseignement. Parce que là, on est dans un enseignement de masse. Enfin, quand j'ai quitté l'université, j'étais déjà dans un enseignement de masse. Et nous avons des esprits à former, et il faut les mettre en questionnement. Et là, la finance ne devient qu'un simple outil. Un filtre presque, j'ai envie de dire, secondaire, en fait. C'est quelque chose qui ne doit pas arrêter une décision, ce n'est pas quelque chose qui doit arrêter, en fait, une croyance. Et je crois que là, il y a quelque chose d'essentiel à faire passer aux pédagogues, aux enseignants, dans les programmes, dans les manuels, peut-être, dans la pratique.